Michel Poitevin, bonjour.
Bonjour, Monsieur Chabot.
Ça va bien?
Ça va bien, vous?
Oui, on a notre professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Bon, on va pas parler d'Air Canada, je pense qu'on en a assez dit. On va parler de notre souverain, le roi Charles, qui va se retrouver, on va le voir plus souvent.
On va le voir plus souvent, effectivement. La monnaie canadienne va présenter aujourd'hui à Winnipeg. Là, on sait que la monnaie canadienne est située à Winnipeg, donc va présenter l'effigie du roi Charles qu'on va choisir pour nos pièces de monnaie et nos billets de banque. L'effigie est l'œuvre d'un artiste canadien, Stephen Rosati. Apparemment, on a choisi le profil gauche de Charles III, alors que pour la reine, c'était son profil droit.
Bon.
Et puis, on nous dit que les premières pièces, il va y avoir quelques pièces datées de 2023 avec le roi Charles qui vont apparaître en décembre. Alors, est-ce que ça va devenir des pièces de collectionneurs à suivre? S'il n'y en a pas beaucoup, il y a sûrement des gens qui vont essayer de s'en procurer pour les collectionner.
Ah, il y en a pour tous les goûts. Hein? Le roi Charles, qui a aujourd'hui 75 ans, quand même, hein? Trois quarts de siècle.
C'est ça, je pense, étant donné la longévité de sa mère, il a dû attendre longtemps avant de devenir souverain.
Oui, voilà. Bon, OK. Alors donc, c'est des pièces qu'on va probablement en trouver quelques-unes en 2023, mais certainement
ben,
fin, en 2020.
En décembre, ouais. On dit qu'il va en avoir, mais sûrement qu'en 2024. Ce que je ne sais pas, là, je disais, on parlait du billet de 20 $. La reine, en fait, on n'a certainement pas d'argent. Je ne sais pas si la reine est sur d'autres billets puis qu'ils vont conserver certains billets avec la reine.
Je
on
n'a
certainement plus d'argent. Maintenant, on paye avec les téléphones et tout.
Oui, tout à fait.
On ne sait plus ce qu'il y a sur nos pièces ou nos dollars.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure à Mathieu. Je ne sais pas si je vais en avoir de ces pièces-là parce que moi aussi, je paye avec mon téléphone. Et puis, c'est parce qu'on n'utilise plus beaucoup hein, les pièces et les billets. Et,
c'est ça.
Ouais. C'est le billet de 20 qui a encore la souveraine dessus. Je ne sais pas si ça va être maintenant le billet de 20 avec le souverain parce que les autres billets, ce sont d'autres personnages.
C'est ça. Parce qu'on parlait du billet de 20 $ donc elle va sauter, là, ça va être son fils qui va la remplacer. Je pense qu'il y en a une, c'est pas le 5 $ c'est pas Laurier, je pense, ou le fils
ouais,
de Laurier,
c'est,
peut-être.
C'est, ouais, c'est ça.
Mais je les connais pas tous par cœur.
Moi non plus. Je faisais une blague tout à l'heure, c'est pas très gentil, mais sur le billet de 20 $ le souverain, ou la en fait, le souverain va être de face, alors peut-être falloir prévoir un petit peu plus d'espace pour la largeur des oreilles.
Ça va être un billet en trois dimensions.
Ah, Michel, vous êtes pire que moi. Bon, allons-y avec l'autre nouvelle. On se répète, mais la hausse des taux commence à affecter l'économie.
Oui, bien, une petite nouvelle, c'est symptomatique du ralentissement économique. Mais Rona a annoncé la mise à pied temporaire de 25 travailleurs à son entrepôt de Boucherville.
Mmh.
Elle emploie à cet endroit-là 1550 employés. Donc, c'est pas des mises à pied massives, sauf qu'on veut jamais être du côté de ceux qui perdent leur emploi, évidemment. Puis, on blâme, je pense à juste titre, le ralentissement de la construction et de la rénovation résidentielle. Juste pour donner une idée, la Commission de la construction du Québec nous disait qu'au mois d'août 2023, dans la construction, il s'était travaillé 35,6 millions d'heures, excusez. Faut oublier dans mes notes de rajouter le million. Là, 35 millions d'heures travaillées, ce qui est 11% de moins qu'en août 22. Donc, on voit que ça ralentit. Évidemment, on avait des taux qui étaient tout proches de zéro. Là, maintenant, on est plus à... Bon, le taux de la banque est à 5 %, donc les hypothèques, c'est 6% en montant.
Ah oui, on voit la différence. On voit la différence.
Donc, même pour les automobiles, là, les gens, ceux qui achetaient des voitures, mais avec des programmes de location ou tout ça, mais avec la hausse des taux, ça augmente pas mal le coût d'acheter une voiture, par exemple.
Mais, anecdotiquement, j'ai fait faire des travaux à mon condo. Et puis, je n'ai pas eu à attendre, tu sais, bon, peut-être dans un mois, deux mois. Non, c'était dans deux semaines.
Ah, ouais,
il y a plus de disponibilité.
C'est ça. Donc, on s'en rencontre. Un autre symptôme, mais qui est peut-être moins bon, mais le loyer moyen a augmenté au Canada, là. Le loyer moyen au Canada est à 2178 $. Bon, ça, c'est tout le type de logement confondu, là,
okay.
Un loyer locatif, ce qui est une augmentation de tout près de 10 % sur un an. Les deux villes qui remportent la palme des plus chères, Vancouver et Toronto. Donc, à Vancouver, pour un 3,5 en moyenne, c'est 2872, puis à Toronto, 2607. Donc, c'est énorme. Pourquoi c'est symptomatique? Mais un peu avec l'inflation, puis les coûts de, quand les taux d'intérêt augmentent, bien, ça augmente le coût des propriétaires, évidemment. Ils ont des hypothèques et tout. Alors, les loyers suivent un peu également. Là, on parle de pénurie de logements, puis c'est vrai que c'est un des facteurs, mais un autre facteur, la hausse des taux, ça contribue aussi à faire augmenter les loyers.
Oh là là, je me demande comment les gens font à Toronto ou à Vancouver, là, ceux qui gagnent un salaire ordinaire, là, comment est-ce qu'ils font pour se loger? C'est incroyable. Hein?
Effectivement, il faut espérer. Je n'ai pas de données sur les salaires, mais il faut espérer que les salaires suivent un peu, parce que sinon.
C'est à espérer, en effet.
C'est ça.
J'ai vécu à Toronto dans mes débuts à Radio-Canada, puis déjà, je trouvais que ça. Écoute, je payais, c'était le double de ce que je payais quand j'habitais à Ottawa. Je suis parti d'Ottawa à Toronto. C'était le double pour la même superficie. C'est quand même
Ben moi,
incroyable.
j'ai vécu à Vancouver, mais au début des années 80, là, alors j'étais étudiant, c'était pas donné non plus, là.
Non, déjà, ben c'est même temps que moi, là, des années 80. Bon, écoute, on arrête de parler de nous, mais on va parler aussi de ce qu'on pourrait peut-être considérer comme une bonne nouvelle, parce que finalement, si les gens ont moins d'argent à dépenser, ben peut-être que ça va compenser. Il y aurait peut-être une baisse. En fait, il y a une baisse d'impôts qui est prévue en 2023 au Québec.
Oui, ben, elle avait été annoncée il y a à peu près un an, là, suite aux dernières élections, là, une des promesses électorales était de baisser les impôts. Donc, on avait annoncé des baisses qui totalisaient environ 3,9 milliards de dollars. Puis ces baisses-là se retrouvaient aux deux premiers paliers d'imposition. Donc, pour des revenus de, ça doit commencer autour de 17 000 à peu près à 49 000. Là, en bas de 17 000, c'est zéro. L'impôt est zéro. Donc, jusqu'à 49 000, avant, les gens payaient 15 % d'impôts. Maintenant, c'est 14 %. Puis ça, c'est l'impôt provincial, là. Je parle pas de l'impôt fédéral. Et puis, le deuxième palier, qui était de 49 000 à 98 000, l'impôt était, le taux d'imposition était 20 %. Là, il baisse à 19 %. Alors, tous ceux qui ont des revenus dans ces eaux-là, et même si quelqu'un a des revenus de 200 000 $, il va en profiter aussi parce que sur ses premiers 49 000, il payait 15 % d'impôts et maintenant il va payer 14 %. Puis sur le 49 à 98, avant la personne payait 20, maintenant c'est 19 %. Donc, tous ceux qui ont des revenus imposables en profitent. Évidemment, ceux qui ont des revenus plus élevés en profitent plus parce qu'eux, ils ont par exemple la totalité du palier.
Oui.
Mais peut-être la bonne nouvelle, là, je ne sais pas quand ça a été annoncé, ça ne doit pas faire si longtemps là, parce qu'on attend, c'est qu'à chaque année, on indexe les tables d'impôts. Donc, c'est quoi? Ce sont les seuils d'imposition. Donc, tout à l'heure, quand je parlais, le premier palier étant, mettons, 17 000 ou 0,49 000 là, de revenus imposables. Mais quand il y a de l'inflation, si par exemple ton revenu est à 48 000. Puis, et donc là, tu payais 14 % d'impôts. Puis, par exemple, ton revenu a augmenté avec l'inflation, ton salaire a augmenté, puis tu es passé de, je sais pas moi, 48 000 à 51 000. Si on ne change pas les tables d'imposition, tout d'un coup, cette personne-là va payer plus d'impôts parce qu'entre 49 et 51 000, ça va être taxé à 19, ben, le nouveau palier à 19 %, alors qu'avant, il payait 14 % sur ses revenus. Puis ça, c'est juste parce que ses revenus ont suivi l'inflation. Donc, la personne n'est pas devenue plus riche. Là, son revenu réel n'a pas changé. Alors, les gouvernements, pour essayer d'empêcher cette surimposition à cause de l'inflation, indexent les tables. Donc, le 49 000, par exemple, pourrait passer maintenant à 52 000. Et donc, quelqu'un qui passe de 48 à 51, bien, il continuerait de payer 14 %. Alors, l'indexation pour 2023, elle est substantielle, 6,44 %, en ligne à peu près avec l'inflation moyenne dans l'année, là.
Mais je voudrais souligner quand même que, on l'a mentionné, là, mais le gouvernement se prive d'environ presque 4 milliards de dollars en revenus avec ça.
C'est ça. Mais je dirais, il y en a un qui c'est une vraie baisse d'impôts, là. Donc ça, c'est une décision gouvernementale de baisser l'impôt.
Oui.
Celle de l'indexation, on peut dire, il se prive, mais en même temps, s'il le faisait pas, les gens pourraient dire, ah, mais là, le gouvernement, sans nous le dire, il augmente l'impôt parce qu'il fait juste ne pas indexer les tables. Les gouvernements l'ont longtemps fait, là, dans des périodes, dans les années 90 et tout, c'était pas automatique.
Oui.
On avait plus d'impôts.
L'indexation, c'est de toute façon,
automatique.
c'est même peut-être neutre parce que si les gens gagnent plus, ils payent plus d'impôts, mais s'ils payent plus d'impôts à un taux normal, ça ne va pas changer grand-chose là au
Non, c'est
niveau.
ça. En indexant les tables, ce qui arrive, c'est que ta situation réelle, si l'indexation est ton bon taux, ta situation réelle ne change pas. Ton revenu nominal augmente, donc il suit l'inflation. Ton impôt nominal augmente aussi parce que lui aussi il augmente, mais en réel, enlevé par en soustrayant l'inflation, mais ça va être en termes réels la même chose que tu vas payer si les tables sont indexées.
Tout à fait.
C'est ce que tu veux, là. Si à un moment donné, tu as décidé, par exemple, que les gens qui ont des revenus en 2022 de 49 000 $ doivent payer 14 % d'impôts, mais tu voudrais que quelqu'un qui a un revenu, mettons, de 3 000 $ de plus à cause de l'inflation de 52 000 qui correspond à 40 en 2023, qui correspond à 49 000 en 2022, mais ben, ils payent aussi 14 % d'impôts, là.
D'accord.
Donc c'est le but de l'indexation.
Donc, allons-y maintenant aux États-Unis, nos voisins du Sud, le U.S. Bureau of Labor Statistics, hein, un peu le Statistique Canada américain, qui vient de publier les nouveaux chiffres d'inflation pour octobre.
Oui, c'est sorti ce matin, en fait, puis les nouvelles sont bonnes. L'inflation aux États-Unis, là, sur une base annuelle, est à 3,2 % en octobre, alors qu'elle était à 3,7 en septembre. Donc ça, un demi-pourcent. Donc on se dirige vers la cible de 2 %. Est-ce qu'il va y avoir des soubresauts dans le futur? On verra, mais certain, la tendance est encourageante. Et puis, ça se répercute ce matin sur les marchés financiers. Là, on se rend compte que les bourses un peu partout dans le monde augmentent entre 1 et 2 %. Pourquoi? Parce que là, les gens disent, OK, bien là, si vraiment la lutte à l'inflation commence à rapporter des dividendes, là, peut-être qu'on va bientôt voir la fin de la hausse des taux et peut-être même éventuellement une baisse des taux d'intérêt. Puis ça, bien, c'est vu de bons signes là, pour les marchés financiers. Ça veut dire que les compagnies, leur coût de financement va baisser. Donc, elles vont plus investir, plus productives, plus rentables et la bourse augmente.
Wow. Ben écoute, c'est peut-être des bonnes nouvelles, sait-on jamais. De toute façon, je pense qu'on a dit que les choses devraient se calmer d'ici 2025, alors on a encore une autre année difficile à passer.
C'est ça, là. On pense pas qu'il va y avoir des grosses baisses de taux là, avant la fin 2024,
ouais.
Mais ce que les gens avaient peur, c'est est-ce que les taux vont continuer à augmenter? On a-tu atteint le plafond ou bien ça va continuer à augmenter? Mais avec les chiffres de ce matin, ça augmente les chances qu'on ait atteint le plafond.
Bien, génial.
Ça.
Merci beaucoup, Michel Poitvin, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal.
Merci. Bonne fin de journée.
Bonne fin de journée.
Au revoir.